Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de temps qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épreuve subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode 100, Penser les futures féministes.
Mais c'est aussi ça la soumission des femmes. Donc vous, vous pensez voile parce que vous avez des représentations racistes comme on a tous, hein, sur lesquelles il faut réfléchir et qu'il faut déconstruire. Mais en réalité, ça concerne toutes les femmes parce que la domination masculine concerne tous les hommes, et que c'est très difficile de renoncer à ces privilèges. Et que les hommes sont éduqués à penser, et pas tous agissent comme ça, mais ils sont tous éduqués à penser que s'ils ne ramassent pas les chaussettes seront ramassées.
Bon, en vrai, je mens, c'est pas l'épisode 100. Enfin, si, c'est l'épisode 100, parce qu'il arrive juste après l'épisode 99. Mais c'est en fait le 139e épisode mis en ligne, parce que pendant les 4 premières saisons, on ne numérotait pas les tables rondes, on les appelait épisodes bonus. Enfin bref, c'est notre cuisine interne, ça vous regarde pas vraiment. Mais c'est intéressant parce que le fait que j'appelle cet épisode l'épisode 100, ça raconte aussi un peu ce qu'est la pensée féministe. Si, si. Ça raconte le fait que chaque savoir, chaque décompte, chaque nomination, chaque concept est fondamentalement situé. Chaque nom, chaque chiffre, chaque pensée est complexe et imbibée de l'identité de celle ou de celui qui en est l'auteur ou l'autrice. Pour résumer, d'un point de vue universaliste, cet épisode n'est pas l'épisode 100, mais de mon point de vue à moi, le seul qui compte du coup, puisque ce podcast est mon espace et un peu ma narration, ben si, en fait, c'est l'épisode 100. Je m'envole un peu là, je suis désolée. J'arrête pas de m'envoler comme ça depuis que je me penche sur la philosophie. C'est fabuleux, la philosophie. C'est presque aussi chouette que la sociologie. C'est pour cela que lorsque Charlotte Kaziragi m'a proposé d'animer une table ronde féministe aux rencontres philosophiques de Monaco, ben j'ai sauté de joie. J'ai réuni autour de la table 3 penseuses féministes avec l'idée qu'on allait tout ensemble réussir à penser des futures féministes, les futures féministes, et à décrire ce à quoi pourrait ressembler une société véritablement égalitaire, véritablement juste, véritablement libre. C'est le dernier épisode de la saison 5 de La Poudre, une saison qui a été riche en savoir, en complexité et en espoir, et que je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi. Pour continuer de suivre les aventures de La Poudre à la rentrée, je vous invite fort à suivre La Poudre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où on vous tiendra au courant de la suite des événements, qui va peut-être vous surprendre. En attendant, place à la philosophie. Cet épisode est délicieusement long. Régalez-vous bien. Avec Sandra Laugier, Manon Garcia et Éléonore Lépinard, on a parlé des résistances contre la pensée féministe. On a beaucoup plus parlé de tâches ménagères que prévu. On a parlé de sexe et de notre ras-le-bol de ne pas être écouté. Bref, on a beaucoup parlé des hommes. On est parti. Alors, on y va.
Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter. Je suis Lorraine Bastide, je suis journaliste et cette table ronde sera un épisode de mon podcast La Poudre. Et pas n'importe quel épisode, ce sera l'épisode 100. Il sera en ligne sur toutes les plateformes à la fin du mois de juillet. Merci beaucoup d'être venu dans la magnifique enceinte du musée océanographique de Monaco. Merci à Philo Monaco et à Charlotte pour l'invitation, c'est une grande joie d'être ici. Et merci à mes invités, les trois penseuses qui m'entourent à cette table et qui ont toutes accompli des prouesses d'organisation, d'emploi du temps, des voyages parfois longs courriers pour venir jusqu'à moi. Bonjour Manon Garcia.
Bonjour.
Vous nous arrivez directement de Boston. Vous êtes docteur en philosophie et assistant professor à l'université de Yale. Votre essai, On ne n'est pas soumise, on le devient, une relecture de Beauvoir tirée de votre thèse, parue en 2018, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et déjà un classique féministe. Je suis très heureuse de vous recevoir enfin dans La Poudre.
Oui, je suis très contente qu'on se parle enfin aussi.
Bonjour Sandra Logier.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir à nouveau dans La Poudre. Vous avez déjà été mon invitée. Vous êtes docteur en philosophie, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directrice adjointe de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne et l'une des plus importantes théoriciennes de l'éthique du care en France et dans le monde, on peut le dire. Merci beaucoup d'être ici.
Merci, c'est un plaisir.
Bonjour Éléonore Lépinard, fraîchement débarquée de Genève.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, professeur associé en études de genre à l'Université de Lausanne et votre travail porte principalement sur la pensée intersectionnelle, on va y revenir, et les entrecroisements entre le sexisme et le racisme. Je voudrais aussi saluer chaleureusement et à distance la philosophe Ouria Bentouami, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui a été retenue par des contraintes personnelles. Nous sommes réunis pour parler de futur. C'est un peu la mode de penser au monde d'après en ce moment. Mais surtout de futur féministe. Car c'est la pensée féministe qu'on peut aussi désigner sous le terme d'étude de genre qui fait le lien entre tous vos travaux. Comme j'ai un public assez varié devant moi, et vraiment j'en suis ravie, je voudrais rappeler pour commencer que le féminisme n'est pas qu'un mouvement de revendication sociale. Le féminisme n'existe pas que le 8 mars. C'est un vaste champ de pensée, un terrain de recherche en sciences humaines occupé par des penseuses et des penseurs aussi. Il y a une sociologie féministe, une anthropologie féministe, une histoire féministe, une économie féministe, et bien sûr, une philosophie féministe. On pourrait même dire que le féminisme contemporain prend vraiment racine dans la philosophie, puisqu'il ne cesse d'être une variation autour d'un texte écrit par la plus célèbre des philosophes françaises, Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, en 1949, et même une variation autour d'une phrase tirée de ce texte, « On ne naît pas femme, on le devient », qui pose les jalons d'une idée décisive, femme est un construit social et pas un destin biologique. Je parle sous le contrôle étroit de Manon, qui est une grande experte de Simone de Beauvoir. Vous me direz si je me suis trompée.
Non, tout va très bien, tout va très bien.
Alors, il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'hier, c'était les épreuves du bac de philo en France. Et pour la première fois, il y avait 6 femmes philosophes au programme, alors que jusqu'ici, on n'en trouvait qu'une seule depuis des années, Hannah Arendt. Ça avance un peu. Donc je vais d'abord vous poser cette question à toutes les trois, en commençant peut-être par vous Manon. Que peut la philosophie pour le féminisme ?
Alors c'est intéressant que vous posiez la question comme ça, parce que moi je suis philosophe et féministe, mais ça a été plutôt, je pense comme beaucoup d'entre nous, plutôt ce que peut le féminisme pour la philosophie. Mais c'est intéressant de se poser aussi la question inverse, parce que je pense que ce que peut la philosophie pour le féminisme, c'est lui donner des bases théoriques, et c'est ce que la philosophie a fait pour le féminisme, lui donner des bases théoriques importantes, et parce que ce que fait la philosophie féministe, à mon sens, c'est deux choses différentes et également importantes. Une première qui est de décrire les inégalités entre les hommes et les femmes, donc une tâche descriptive, et ensuite de proposer des solutions donc une tâche normative pour réduire ces inégalités ou y mettre fin. Et donc évidemment, c'est très important de fournir des outils au mouvement féministe pour comprendre quelles sont ces inégalités, mais aussi pour essayer de penser ce que vous vouliez penser, c'est-à-dire le féminisme de demain. Moi, j'ai dirigé, grâce à Sandra Logier, qui a été ma directrice de thèse et qui me soutient beaucoup, un volume, une anthologie de textes de philosophie féministe chez Vrin, qui donne un peu une idée de la variété de ce que c'est que la philosophie féministe. Et la philosophie féministe, c'est évidemment, on se dit, c'est de la philosophie politique sur l'oppression, mais c'est pas du tout seulement ça. C'est une relecture de l'histoire de la philosophie pour réfléchir, par exemple, à quelle est l'importance des biais sexistes des philosophes dans leur pensée. Est-ce que le fait que Hegel ou Nietzsche puissent penser des choses très sexistes, ça un effet sur la validité de leur système, c'est aussi apporter des nouveaux objets à la philosophie. Le care, c'en est un, la famille, de manière générale, les femmes. Et en fait, ça, c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, mais quand Beauvoir écrit le deuxième sexe en 1949, elle est la première à vraiment proposer une analyse philosophique pour répondre à la question « qu'est-ce qu'une femme ?». Et c'est fou quand on y pense, parce que la question « qu'est-ce que ?», c'est ce que les philosophes appellent la question d'essence, c'est la question fondamentale de la philosophie depuis Socrate. Et pourquoi la question fondamentale de la philosophie depuis Socrate, elle n'est pas posée avant 1949 sur ce que c'est qu'une femme, donc sur la moitié de l'humanité? C'est ça qui compte, en fait. C'est ça que fait la philosophie féministe, et ça, c'est vraiment excitant. Donc, c'est ça... Et moi, ce sur quoi j'ai travaillé récemment, que je trouve très intéressant, c'est que, en fait, en posant la question « qu'est-ce qu'une femme ?», Beauvoir est la première à réfléchir sérieusement à « qu'est-ce qu'un homme ?». Parce que les philosophes, ils pensent « qu'est-ce qu'un homme égale qu'est-ce qu'un être humain ?». Et en fait, Beauvoir est la première à proposer en filigrane une philosophie de la masculinité. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas non plus. Et pour les hommes, c'est important de réfléchir à ce que c'est que d'être un homme, ce que c'est que la virilité. Et quand elle montre que la façon dont la virilité est construite est une source de souffrance pour les hommes, alors même que c'est le produit de leur pouvoir, bon, ben, y a des champs entiers de libération qui sont possibles, et pas seulement pour les femmes.
Sandra, que vous inspire cette question, le lien entre féminisme et philosophie, dans le sens que vous voulez?
Bien sûr, c'est vrai que moi aussi j'aurais tendance à dire, mais à cause de mon itinéraire personnel, qu'est-ce que le féminisme fait pour la philosophie? Parce que le féminisme transforme vraiment la philosophie en attirant notre attention, et donc l'attention de tous les philosophes, sur un certain nombre de questions d'inégalités et donc de difficultés qui n'apparaissent pas en fait auparavant. Et c'est d'ailleurs vraiment formidable qu'il y ait toute cette réflexion sur le féminisme ici, donc aux rencontres philosophiques de Monaco. Moi, je remercie Charlotte, parce que c'est vrai que c'est vraiment une façon, à la fois d'attirer l'attention sur ces questions qui concernent les femmes, mais c'est aussi, en effet, donc là c'est le deuxième sens de la question, c'est aussi de montrer à quel point c'est important de lier la philosophie et le féminisme, et de montrer que la philosophie féministe apporte énormément à la fois au féminisme et à la philosophie. Et je crois que c'est vraiment une transformation du regard, et je crois que chacune qui travaillait sur l'éthique du care, par exemple, a eu cette expérience, c'est-à-dire que à partir du moment où on s'intéresse à ces personnes qui s'occupent de nous, eh bien, on voit toutes sortes de choses nouvelles, comme on l'a vu pendant tous ces derniers mois, avec le confinement. On en parlait tout à l'heure, c'était extrêmement intéressant dans la table ronde précédente, comment finalement on a découvert toutes ces personnes, ces femmes, mais des hommes aussi, qui s'occupaient de nous. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui m'a été révélé quand j'ai commencé à travailler sur le care, et pas seulement en philosophie, mais aussi avec des sociologues, avec Patricia Paperman, et d'ailleurs Éléonore aussi à l'époque, quand elle était étudiante, docteur, enfin, voilà. En tout cas, je crois que c'est vraiment cette transformation de la pensée qui m'a vraiment toujours motivée, mais aussi, et ça j'y crois de plus en plus, peut-être plus maintenant, comment le fait que la philosophie vienne, alors je ne veux pas dire valider parce que ça donne une espèce de supériorité à la discipline, mais vienne porter en fait, cette réflexion-là. Le volume des textes clés de philosophie féministe paru quand même chez Vrin, qui n'est pas non plus un éditeur totalement révolutionnaire, et qui a aussi publié le livre de Soumaïa Mestiri sur l'intersectionnalité. Enfin, le fait que donc, les éditeurs de philosophie et donc que la réflexion philosophique intègre en fait, cette notion de care, la notion de genre, toutes les questions féministes, les questions d'intersectionnalité, je pense que c'est vraiment important à un moment où il y a quand même des attaques aussi sur la validité scientifique de ce domaine qui est un des domaines de recherche les plus importants aujourd'hui.
On va naturellement venir à ces attaques qui sont importantes. Je termine par vous ce tour de table, Éléonore, et je trouve ça intéressant parce que moi j'ai une formation plutôt en sociologie et je me rappelle qu'au début la philosophie ça résistait pour moi parce que je me disais mais la philosophie c'est du jus de crâne, c'est des mots alors que la socio on observe, on a des chiffres, on a des données, on a des personnes réelles qui parlent de leur vécu. Comment vous en tant que sociologue vous abordez la philosophie, est-ce qu'elle vous aide?
Mais je pense qu'en fait le fait de travailler sur le féminisme et d'être féministe m'a rendue théoricienne parce que je pense qu'en fait le féminisme c'est une pratique de théorisation pour se changer soi, pour créer une communauté politique et pour transformer le monde. Et on peut pas faire ça sans concept et donc je rejoins évidemment ce qu'on dit Manon et Sandra, j'adhère complètement mais je pense que si on reprend cette définition si ma mémoire est bonne de Deleuze du philosophe, mais je dirais de la philosophe, c'est la créatrice de concepts. Et c'est ce que fait le féminisme, en fait. Le féminisme, comme pratique de théorisation, crée des concepts qui nous permettent de dévoiler des réalités qui étaient invisibilisées comme le care, qui permettent de donner de nouveaux récits. On a beaucoup parlé de ça dans la table ronde précédente. Et donc le féminisme fait ça en créant de nouveaux concepts. Et je donnerai un exemple, le fait de plus parler de séduction, mais de parler de violence ou de harcèlement, c'est une manière de renommer la réalité, de lui redonner un sens nouveau, de révéler ce sens même pour les personnes qui l'ont expérimenté. Et on espère aussi pour les personnes qui le perpétuent, même si là, il y a plus de résistance. Donc, pour moi, le féminisme, c'est de façon inhérente une pratique de théorisation. Et sans ça, en fait, c'est le projet même du féminisme. Donc, je ne me positionne pas par rapport, de ce point de vue-là, par rapport à la philosophie comme discipline, mais là, je rejoins complètement que le féminisme, heureusement, a beaucoup apporté. Mais vraiment que la pratique politique, c'est une pratique de théorisation. Voilà.
Je précise que depuis, je me suis beaucoup relâchée sur la philosophie grâce au travail de Manon Garcia, aussi de Claire Marin, de Cynthia Fleury qui sont là et que je remercie beaucoup de m'avoir ouvert sur cette nécessité du concept. Alors, on va quand même parler de ces attaques, effectivement, que vous avez évoquées, Sandra. Il y en a toujours eu, des attaques contre les études de genre. On sait que les quelques masters, ils sont une poignée. Il y en a 5 ou 6 en France, si on compte large. Ils peinent chaque année à obtenir leur financement. C'est une lutte depuis 68-69, date de l'apparition du tout premier master en études de genre, pour être financé chaque année. Mais récemment, ces attaques ont redoublé de la part d'une presse conservatrice, on peut s'y attendre, mais aussi, c'est inquiétant, de la part du gouvernement. On s'en prend tout particulièrement à un pan particulier des études, la pensée intersectionnelle. C'est une pensée qui s'attache à réfléchir aux articulations entre les oppressions de genre et le racisme, l'homophobie, la transphobie, les discriminations liées à la classe ou encore au handicap. Éléonore Lépinard, je me retourne à nouveau vers vous. Vous venez de publier un ouvrage conjointement avec Sarah Mazouz dédié à ce sujet qui s'appelle « Pour l'intersectionnalité ». C'est aux éditions Anna Mossa, ça coûte 5 euros, ça se lit très vite et c'est limpide. Est-ce que c'est l'inquiétude qui vous a dicté l'écriture de ce petit manuel ?
Alors c'est la colère, la colère est toujours un excellent moteur aussi de théorisation féministe en particulier. Donc oui, c'est l'inquiétude, c'est la colère. Il faut rappeler que la France n'est pas le seul endroit où les études de genre, les études critiques de la race, oui absolument. Alors vous voyez, il est tout petit, il s'achète à la caisse et quelqu'un, un libraire vient de nous faire un retour sur ce livre en disant mais en fait c'est même pas un format de poche, c'est un format de main. On dirait que c'est fait exprès pour qu'on puisse le cacher contre la police si on se fait fouiller.
Dans la poche. marche arrière donc, voilà, disons, non.
Effectivement, drôle mais inquiétant qu'il fasse spontanément ce lien que peut-être, voilà, on n'est pas loin de la censure. Donc voilà, on n'est pas en très bonne compagnie hein, en France au niveau de ces attaques, puisqu'on est en compagnie de la Pologne et de la Hongrie hein, et de la Roumanie, qui sont les pays qui ont fait les attaques les plus poussées sur les programmes de master en études de genre en particulier. Alors, il y a eu une victoire en Roumanie, puisque la Cour constitutionnelle a décidé que le gouvernement ne pouvait pas interdire les études de genre. Mais effectivement, dans quelle compagnie sommes-nous ? Dans quel État sommes-nous ? Avec qui sommes-nous dans cet État ? Bon, ben voilà, avec en fait, les États les plus autoritaires de l'Europe. Donc, ça interroge. Ça interroge aussi parce que ces attaques sont venues, en fait, ne sont pas nouvelles. Hein. Je vous rappelle que, pour ne pas la nommer, quand Valérie Pécresse a pris la région Île-de-France, elle a coupé les financements. Et elle ne se présente pas. Enfin, alors, elle a durci sa ligne dans le sillage de la manif pour tous, mais elle ne se présentait pas avant hein, comme quelqu'un de si à droite. Donc, bien évidemment, c'est inquiétant parce que, fondamentalement, c'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre le projet critique des sciences sociales. Et à un moment où, on l'a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente, on a tellement besoin d'un retour sur expérience de pouvoir produire une pensée sur ce qui nous arrive et une pensée exploratoire, pour reprendre les mots de Cynthia Fleury, et c'est-à-dire en ce sens-là démocratique, on veut nous empêcher, de la produire. Alors, on peut se dire, la version optimiste, c'est, mais en fait, cette résistance et ces attaques expriment finalement le succès des études de genre et aussi les études critiques sur la race en particulier, et c'est ce que certains collègues disent. Elle dit mais en fait c'est mieux que l'indifférence, et c'est vrai que moi j'ai grandi comme étudiante, comme doctorante dans un univers académique français où oui c'était vraiment l'indifférence quoi. Je dirais vous travaillez là-dessus, formidable, merci, au revoir. Donc aujourd'hui éventuellement on me déteste, bon peut-être c'est mieux dans le sens où au moins voilà, ça suscite de la résistance. Et d'un autre côté, alors moi j'enseigne en Suisse, la problématique est différente, mais je pense que, enfin en tout cas je serais intéressée du retour aussi des collègues en France, mais pour la génération à qui j'enseigne, il n'y a pas de retour en arrière en fait, c'est un acquis. En fait, la déconstruction dont parlait Manon, la désessentialisation des identités de genre et des identités sexuées, la nécessité de la lutte contre le racisme, c'est un acquis total. Et je vois la différence par rapport à quand j'enseignais il y a 6, 8 ou 10 ans, hein, par rapport au travail pédagogique de faire comprendre ces notions, de susciter des formes de prise de conscience, de compréhension de cette déconstruction. Mais c'est automatique. C'est-à-dire là, on a plus besoin, c'est pour eux, il y a une forme d'évidence. Et donc, voilà, donc moi je crois à cette génération, et j'espère qu'elle va nous sauver, mais c'est un bien lourd fardeau à lui faire porter, tout en ne lui donnant aucun accès une distribution du pouvoir plus égalitaire. Donc c'est, le problème, c'est ça, en fait. Le problème, c'est notre génération, les gens au-dessus. Voilà. En tout cas, sur ce domaine-là, on voit cette dynamique. Donc voilà, donc je pense que il y a de la résistance exprime aussi une forme de réussite ou en tout cas d'adhésion à ce projet, mais parce que c'est un projet de liberté. C'est pas que un projet d'égalité, c'est un grand projet de liberté et d'émancipation. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on en a sévèrement besoin.
C'est vrai qu'il y a une espèce de réaction un peu démesurée. J'avais vu passer un chiffre. Je crois qu'il y a il y a moins d'1% des thèses qui sont soutenues en France qui concernent cette thématique-là. Et quand on voit que Valeurs Actuelles, ils consacrent, je sais pas, 5 ou 6 couvertures dans l'année, on peut se dire qu'il y a effectivement une panique qui est peut-être bon signe. Vous en pensez quoi, vous, Sandra?
Alors oui, du côté de la France, justement, c'est vrai que je suis très, très frappée par ce que j'entends, dans la mesure où, oui, comme vous le disiez, il y a très peu de thèses, il y a très peu de moyens pour les études de genre, il y a quelques masters, mais qui fonctionnent avec vraiment zéro moyen, puisqu'on utilise de la mutualisation. Il y a quelques postes, mais c'est extrêmement rare. Vous voyez, ne serait-ce là des personnes ultra brillantes en France qui ont travaillé sur ces sujets. Hein, vous avez une qui enseigne en Suisse et l'autre, pour l'instant, aux États-Unis. Donc, il y a aussi, de toute façon, très peu de femmes dans la profession philosophique. Hein, chez les professeurs, on doit être 20%. Par contre, il y a vraiment aussi très peu de développement d'enseignement féministe. Donc, on est en fait à un niveau vraiment bas en France. Et du coup, il y a des attaques comme si on était oui, comme s'il y avait une forme d'invasion, de domination, ce qui montre en effet, hein, comme tu le disais, une résistance très forte et une angoisse aussi par rapport au succès, à la demande des nouvelles générations par rapport à ces formations. C'est vrai que là, on a un master en études de genre à Paris 1, mais on a un nombre de candidatures, on a très peu de place, un nombre de candidatures monstrueux. Donc, je pense qu'il y a vraiment une angoisse par rapport à ces nouvelles idées qui apparaissent, et aussi avec l'idée que la parole publique, mais aussi le magistère de l'enseignement philosophique soit plus réservé en fait à une petite minorité d'hommes et de femmes qui monopolisent, hein, et on le voit, hein, d'ailleurs dans les prises de position actuelles d'un certain nombre de collègues, hein, de ma discipline, qui considèrent que c'est seulement à eux, et parfois à elles aussi malheureusement, donc à exprimer la légitimité philosophique. Et donc je crois que là c'est vraiment un mouvement qu'on peut vraiment analyser en termes aussi de résistance à l'arrivée de nouvelles voies, de nouvelles perspectives qui pourraient évidemment intéresser fortement les nouvelles générations.
En quelques mots, Manon, est-ce que vous constatez une différence entre les États-Unis et la France sur la façon dont ces questions sont perçues ?
Alors pour moi, c'est en effet très intéressant parce que je suis vraiment entre deux mondes où les questions se posent de façon très différente, quoique que proche. Mais ce qui me semble intéressant, je suis d'accord avec ce que Éléonore et Sandra viennent de dire, mais je pense qu'il faut commencer par historiciser ces questions-là, parce que quand on voit ce qui se passe quand Beauvoir publie Le deuxième sexe, il y a une campagne médiatique d'une violence inouïe contre elle. François Mauriac écrit à un des membres de la rédaction des Temps modernes en disant « Je connais désormais tout du vagin de votre patronne ». Il organise une campagne de presse du Figaro pour dire « On est en train de pervertir l'esprit des jeunes, etc. On va détruire la France ». Là, j'ai trouvé une citation géniale du Voyage au bout de la nuit. Donc, 1932, où il dit « Le puritanisme anglo-saxon est en train de triompher de la gaudriole des arrière-boutiques ». C'est 1932, il nous dit qu'on ne va plus pouvoir avoir des rapports sexuels tranquilles à cause de ces Américains qui nous importent le consentement. 1932, si ça marchait si bien, on n'en serait pas là en fait, il n'y aurait plus de viols. Enfin, je veux dire, les chiffres des viols aujourd'hui nous montrent que c'est une panique morale fondée sur exactement rien. Ça fait 80 ans qu'on nous dit que les puritains vont nous empêcher de coucher ensemble et de passer des bons moments. Donc c'est pas vrai en fait. Donc je pense que cette historicisation, elle permet de remettre les choses en perspective. Les années 70 aussi, c'est exactement le MLF, etc. Elles sont accusées exactement des mêmes choses dont nous sommes accusés aujourd'hui, sauf que en effet, l'intersectionnalité rajoute une couche où non seulement les hommes vont être privés de leur privilège d'hommes, mais les blancs vont être privés de leur privilège de blancs, et en plus il va falloir qu'on fasse un travail sur notre héritage colonial. Moi je m'appelle Garcia, je suis petite fille de pied noir, je vois ce que c'est de réfléchir à ce que c'est que notre héritage colonial. C'est compliqué, c'est pas facile pour moi en tant que femme blanche. Je vois que en fait quand on commence à réfléchir à tous les privilèges qu'on a en tant que blanc, c'est plus facile d'être une victime que d'être un dominant, et c'est très difficile d'abandonner ces privilèges et de renoncer à plein de choses qui nous semblaient acquises, etc. Mais ce qui me semble important, c'est aussi de voir que il y a tellement de joie à trouver dans l'abandon des privilèges aussi, dans les relations égalitaires et libres. C'est beaucoup plus joyeux d'avoir un rapport authentique aux autres. Donc ça me semble important. Après, ce que j'apprends par ma double position entre la France et les États-Unis, c'est que on voit en fait qu'en France, ce que Zemmour, etc., ils sont en train de faire, c'est qu'ils essaient d'importer les culture wars à l'américaine, de mouvements contre les études sur les femmes, sur les personnes racisées, etc., avec exactement les mêmes armes, mais aux États-Unis, ça date des années 1980, en fait. Donc, c'est, en fait, moi, je vis dans un monde où c'est partiellement et pas totalement réglé, même si ça continue, puisque là, on voit en ce moment aux États-Unis, le sujet de crispation, c'est ce qu'ils appellent la critical race theory, où donc il y a dans certains États, on interdit l'enseignement des questions raciales aux États-Unis, ce qui est quand même, vu le problème des questions raciales, particulièrement inquiétant. Mais moi, ce que je trouve important, c'est que on comprend aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont montré qu'il fallait ne pas comprendre cette question en termes de cancel culture, donc de culture de l'annulation, mais en termes de culture de la responsabilité. La question de la cancel culture, ce n'est pas qu'on annule des gens et qu'on dit qu'ils ne peuvent plus parler, c'est qu'on dit les mots qu'on emploie ont un sens. Et tenir des propos sexistes, racistes, perpétuer des cultures sexistes, racistes, classistes, parce que la classe sociale est aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est un problème. Et donc, il faut une forme de responsabilité morale de ce que l'on fait et de réflexivité. Bon, mais après, c'est sûr que le fait qu'on parle de ça en France aujourd'hui, moi, je pense quand même que c'est un signe de succès. Et je suis d'accord avec ce que dit Éléonore. Moi, j'ai fait ma thèse. J'ai une chance très bizarre, qui est que j'ai fait une thèse de philosophie féministe que j'ai soutenue 2 mois avant l'affaire Weinstein. Et donc, j'ai passé toute ma thèse avec des gens qui me disent « Oh, philosophie féministe, mais ça n'intéresse personne !» Et « Ah oui, Beauvoir, mais elle n'est pas philosophe, ça n'intéresse personne !» etc. Et puis bon, je me suis retrouvée à avoir fait une thèse sur la soumission et le consentement, et l'avoir fini 2 mois avant Weinstein. Donc je vois bien que ce qui n'intéressait personne pendant les 8 années de ma thèse, tout d'un coup intéresse tout le monde. Et donc je suis beaucoup plus cible d'attaque, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui m'écoutent. Voilà.
La question s'est retrouvée sous les feux des projecteurs, et c'est effectivement voilà, pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, un signe qui va nous permettre aussi d'entrer dans le vif du sujet, cette idée de penser une société du futur, un monde d'après qui soit véritablement féministe, un des très bons signes, c'est que par exemple, Sandra Logier, vous êtes consultée parfois par des candidats à des élections présidentielles. Ça a été votre cas en 2017, vous étiez dans une équipe de campagne. Donc vous avez véritablement contribué à l'élaboration d'un programme politique qui était destiné à être appliqué en France. Alors c'est une question très vaste, peut-être que vous pouvez choisir 1 ou 2 exemples. À quoi ressemblerait une société féministe pensée avec les outils de l'éthique du care? Comment ça se traduirait, par exemple, dans le système de santé, dans le système familial? Qu'est-ce qui se passerait dans ce monde-là?
Merci, enfin pas merci de m'avoir rappelé la campagne de 2017, parce que malgré tout, ça s'est pas non plus soldé par 6% seulement des Français qui seront d'accord avec les idées féministes. Et c'est vrai que c'était un candidat qui en effet défendait un programme entre autres extrêmement centré sur des questions d'égalité, d'égalité des sexes, avec par exemple il y avait l'idée de refuser ou mettre en question l'appartenance à l'Union européenne aux pays qui interdisaient l'avortement, par exemple. C'était dans notre programme. Il y avait, bien sûr, une attention très grande aux professions de care, avec l'idée, et je crois que ça, c'est essentiel, et on l'a vu encore plus massivement depuis. De toute façon, depuis, on a bien vu que tout ce programme de Benoît Hamon était quand même excellent. Mais bon, je ne me présente pas. Voilà, dommage. Mais en tout cas, je crois que vraiment, on a vu à quel point la revalorisation matérielle donc des professions de care, donc les professions de soins, bon, bien sûr, dans les hôpitaux, on l'a vu, puisque c'est des professions qui sont absolument dévalorisées, insuffisamment reconnues, et on l'a dit tout à l'heure, c'est des professions qui en plus étaient extrêmement exposées, menacées, c'est-à-dire dont la vie ne comptait pas autant que celle de beaucoup d'autres personnes. Donc je crois qu'on a vraiment là cette corrélation entre la rémunération des personnes et le poids qu'on donne à leur existence, qui est apparu de façon massive, avec une dimension d'intersectionnalité aussi, puisque c'est des personnes aussi très souvent immigrées ou racisées. Donc, cette idée qu'il y a cette urgence-là, qui est une revalorisation salariale, ce qui est assez complexe pour toutes sortes de raisons, puisque ces personnes sont rémunérées par des instances très très différentes, hein, donc c'est pas, mais au moins une revalorisation du SMIC déjà, puisque c'est quand même ce dont relèvent ces personnes, la prise en compte par exemple des déplacements. Du temps de déplacement des personnes, par exemple, donc des auxiliaires de vie. Enfin des, en fait, c'est vraiment des points extrêmement minimes, mais qui sont très importants. C'est vraiment dans le détail que se nichent ces inégalités. Et donc, c'est sûr que s'il y a vraiment une société où on prend au sérieux, où on prend en compte vraiment ces personnes, où on considère qu'elles sont importantes, hein, c'est vrai qu'on les appelait essentielles, ce qui est drôle, puisque ça voulait dire qu'elle ne l'était pas, en fait. C'est vraiment cet usage du langage assez bizarre, hein. Donc, où on va appeler essentiel des personnes qui ne comptent pas. Et donc, il y a eu un début, bien sûr, de revalorisation, mais très restreint, et uniquement pour les personnels médicaux, alors que le CAIR, hein, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ben c'est effectivement c'est les livreurs, c'est les caissières, c'est toutes les personnes qui rendent la vie possible, hein, donc la vie des personnes comme nous, possible. Et donc, cette reconnaissance-là, c'est vraiment un point politique fondamental, puisque c'est aussi reconnaître qu'on est dans le déni de ce qui nous permet de vivre, en fait. Donc, arriver à surmonter ça. Donc ça, c'est évidemment un premier point essentiel. Ensuite, et là aussi, je suis obligée de reparler de la période qui vient de... évidemment, hein, qui vient de se dérouler. Bien sûr, il y a cette question des violences envers les femmes qui a été exacerbée, hein, on l'a oublié, les violences immédiates, hein, bien sûr, les viols, mais aussi les inégalités de situation à domicile. Hein, le fait que ce sont les femmes qui se sont alors occupées du travail scolaire des enfants, qui apparemment, heureusement, je suis contente de ne plus avoir l'âge de m'occuper de ça, parce que ça a été un vrai cauchemar pour les jeunes générations, qui se sont bien sûr occupés du travail domestique. Enfin, il n'y a pas du tout eu de prise en charge supplémentaire par les hommes. Hein, donc là, il y a vraiment la nécessité de travailler aussi collectivement à une meilleure égalité à domicile, que ce soit le partage des tâches ménagères. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose...
c'est quelque chose que l'État peut contraindre, ça? Comment? Oui. Un congé paternité, par exemple?
Alors, il y a le congé paternité, mais regardez toutes les super pubs qu'il y a en ce moment du gouvernement pour dire aux gens, je sais pas, de mettre leur masque, etc. Pourquoi il n'y aurait pas, de temps en temps, une campagne pour dire aux hommes de faire leur boulot à la maison? Je suis désolée, il y a des moyens vraiment évidents. En réalité, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis dans la communication publique en ce moment. Pourquoi ces moyens-là ne sont pas mis, en fait, pour l'égalité du travail domestique? Je pense que c'est un point, c'est pas du tout anecdotique, c'est très important et il faut y mettre des moyens. Et bien sûr, il y a le congé paternité, mais je crois qu'il faut aussi avoir de l'imagination pour d'autres mesures. Il y a des gens qui sont loin du congé paternité qui peuvent être quand même
rééducables. Il n'est pas obligatoire, il n'est pas pris. Donc, en son état actuel, ça ne fonctionne pas.
Et juste un troisième point, même si je ne voulais donner que deux idées, il y a évidemment l'espace public. Hein, donc, on a vu, puisqu'on parle de penser le monde d'après, qui a pensé le monde d'après? Que des hommes. Hein. Alors, des tribunes signées par que des hommes. Et c'est très rare, hein, en fait, que les femmes se sont exprimées. Donc il y a aussi l'application, peut-être, il y a deux règles sur la visibilité dans les médias, l'occupation de l'espace public donc par les femmes.
Ouais. Bah, des chiffres, hein, c'était à peu près 25% avant le confinement, la présence des femmes dans les médias, ce qui n'est pas assez. Et pendant l'année 2020, c'est tombé à 18%. Parce que quand il y a une crise, on se tourne vers l'autorité patriarcale qui nous rassure.
Et pour notre domaine, les publications de femmes chercheuses ont chuté vertigineusement. Hein. Il y a 30% de publications de femmes en moins dans les revues, etc. Alors que celles des hommes, vous l'avez vu, ont explosé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de publications aussi.
Mais je voulais encore vous donner la parole, Sandra, pour approfondir sur cette idée de monde d'après féministe. Il y a aussi une articulation très forte avec la pensée écologique. Et ça peut paraître certainement un peu flou à certains et certaines. C'est quelque chose qui ne va pas de soi, mais il y a tout un pan de la pensée féministe qu'on appelle l'écoféminisme et qui relie l'oppression de la nature nature, l'exploitation de la nature à celle des femmes. Alors, on pourrait faire une table ronde de 3h30 à ce sujet, mais est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire, Sandra, comment ça pourrait se traduire, une pensée écoféministe appliquée aux politiques publiques ?
Ça peut être vraiment vite dit dans la mesure où je parlais tout à l'heure du déni où nous sommes en fait de ce qui nous permet de vivre. Et c'est la même chose pour les femmes, c'est la même chose pour l'environnement et pour les ressources. Hein. C'est-à-dire que le monde du Nord hein, occidental utilise de façon quand même absolument infinie les ressources des pays du Sud. Ces ressources étant à la fois des ressources matérielles, minières, etc., mais aussi des ressources humaines, hein, puisque les personnes du Caire viennent, bien sûr, les personnels de Caire sont des gens qui viennent aussi des pays du Sud. Et si je parle de cela, c'est qu'on ne peut pas penser aujourd'hui l'écoféminisme, les inégalités Nord-Sud, sans en réalité penser à toute cette exploitation de ces pays et ces questions globales en fait de ces pays pour à la fois donc nous fournir des ressources et pour fournir aussi des personnels hein. Maintenant on se rend compte qu'il y a vraiment un schéma commun d'exploitation et je crois que c'est quelque chose qui est absolument structurel en fait dans la pensée de l'environnement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est obligé de penser à ces inégalités incroyable en fait, hein, même si on pensait à notre, évidemment, le petit confort qu'il y a eu dans nos pays, avoir moins de pollution parce qu'il y avait moins de voitures pendant ces deux dernières années, qu'on revoyait des animaux. Alors là, c'était vraiment la nature reprend ses droits, etc. Enfin, cette espèce de mythologie de la nature en tant que telle, alors que les questions écologiques sont vraiment des questions sociales, des questions d'inégalité dans notre pays, mais aussi d'inégalités globales hein, de traitement des différents pays.
Merci beaucoup, Sandra. Vous vouliez réagir, Manon, sur...
Non, mais moi, je trouvais que c'était intéressant ce qui s'est passé pendant la pandémie parce que, donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la soumission des femmes et ça me permet de faire un lien avec ce que disait Éléonore sur la question de la théorisation. Moi, une question qu'on m'a beaucoup posée, évidemment, en France, avec tous les présupposés coloniaux et racistes que les gens peuvent avoir, c'est que quand je parle de la soumission des femmes, tout le monde me dit « Ah, donc tu travailles sur le voile ». Et évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire, bah, en fait, non, je ne travaille pas sur le voile, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes participent à la domination masculine. Et quand je vois mes copines de Paris qui mangent des courgettes bouillies pour rentrer dans un maillot de bain en taille 36, elles ne sont pas tellement, et pour être le plus sexy possible, et porter des mini-jupes et des machins qui vont faire que les hommes vont les trouver belles, sexy, attirantes. Elles sont aussi dans une forme d'oppression et de participation. Et ce que la pandémie m'a permis de montrer, c'est aussi de dire, ben voilà, vous pensez que la soumission, ça ne vous concerne pas, et tout d'un coup, les enfants ne peuvent plus aller à l'école, les hommes et les femmes sont enfermés à la maison, et ce qu'on voit, c'est que les hommes ne font rien à la maison, et que tout le récit...
Hommes, évidemment.
Non, bien sûr, oui. Pardon, oui, je
non, mais faut toujours
je précise,
pas tous
non,
les
non, c'est vrai,
quand on
c'est
dit
vrai.
Les hommes. Comme
pas
ça,
du tout
ça,
tous
ça
les hommes.
Que
ce que je veux dire, c'est que statistiquement, on nous dit tout le temps, c'est parce que les hommes travaillent beaucoup, ont beaucoup d'obligations, etc., qu'ils ne peuvent pas participer aux tâches ménagères. Et ce qu'on a vu, c'est que quand les hommes sont à la maison, qu'ils ont exactement le même temps à consacrer aux tâches ménagères que les femmes, ils continuent de leur consacrer statistiquement en moyenne un temps inconsidérablement plus réduit. Et donc, ça montre bien que ça veut dire qu'il y a des hommes, et c'est ce que les femmes racontent. Enfin, moi, j'ai lu des témoignages hallucinants de femmes qui racontent leurs compagnons qui regardent la télé ou jouent aux jeux vidéo pendant que elle pleure de fatigue à ramasser encore des chaussettes tout en faisant la cuisine, tout en faisant l'école à la maison, et que le mec dit ouais, « j'ai travaillé toute la journée », mais elle aussi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ben, « c'est aussi ça, la soumission des femmes ». Donc, vous pensez voile, parce que vous avez des représentations racistes, comme on a tous, hein, sur lesquelles il faut réfléchir et qu'il faut déconstruire, mais en réalité, ça concerne toutes les femmes, parce que la domination masculine concerne tous les hommes, et que c'est très difficile de renoncer à ces privilèges. Et que les hommes sont éduqués à penser, et pas tous agissent comme ça, mais ils sont tous éduqués à penser que s'ils ne ramassent pas les chaussettes seront ramassées. et que il y a tout cette blague sur la table basse sera débarrassée. Tous les matins, l'homme arrive dans le salon et la table basse a été débarrassée. C'est merveilleux. C'est la table basse magique. Bon, ben voilà. Et donc le problème, c'est de prendre acte du fait qu'il y a un travail qui permet le débarrassage de la table basse, que c'est un travail qui n'intéresse personne. Personne n'est intéressé par le fait de faire la vaisselle et de passer la serpillière et de nettoyer les toilettes. Et donc la question, c'est de dire qu'il faut renoncer au privilège de ne pas avoir à faire ces tâches non intéressantes. Et que l'externalisation n'est pas toujours la solution. Parce qu'il y a plein d'hommes qui disent non, mais laisse tomber, cuisine pas, on va commander, laisse tomber, cuisine pas, on va faire ci, on va faire ça. Ben non, la question c'est, il faut réfléchir ensemble à comment on trouve des moyens écologiquement responsables, socialement responsables, etc., de faire ensemble société, couple, famille, voilà.
Et c'est important de rappeler, parce que je sais qu'à chaque fois que ce thème des tâches ménagères est amené dans une conversation, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais c'est pas vrai, moi j'ai changé les couches de mon fils, mais c'est pas vrai, moi j'ai fait la vaisselle hier soir ». Oui, on sait qu'il y a des contre-exemples, mais l'INSEE a mené une enquête tout récemment, les chiffres n'ont pas bougé depuis 1975. Les tâches ménagères que font les hommes, c'est entre 20 et 30%. Ce chiffre ne bouge pas. Donc voilà, il y a peut-être un problème, et dans le même temps, les femmes travaillent de plus en plus. Donc c'est cette double tâche qui incombe aux femmes, qui est épuisante. Éléonore, vous voulez réagir?
Oui, non, pour rebondir sur ce que Manon et Sandra ont dit. Alors, si on veut penser le futur féminisme, un futur féministe, il faut se pencher sur la question de qu'est-ce qui résiste, en fait, qu'est-ce qui empêche ce futur d'advenir. Et c'est vrai que ce que je constate, et je trouve c'est rendu encore plus flagrant avec la crise du Covid, c'est vraiment le grand écart entre les théorisations qu'on a à disposition, c'est-à-dire les explications. Moi, je voudrais quand même dire que la crise du Covid, les féministes, elles avaient déjà toutes les solutions. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, c'est des problèmes auxquels les féministes réfléchissent depuis des décennies. Donc, quand il s'agissait de penser l'invisibilité du care, la question du fait que les soignantes sont mal rémunérées, etc. Enfin, les féministes, elles n'étaient pas surprises par ces analyses. Elles les avaient déjà faites sur le fait que tout ce travail est nécessaire à la société pour se reproduire. C'est ce travail de reproduction sociale. Donc aujourd'hui, on a des analyses, enfin je veux dire, en philosophie, en psychologie sociale, pour nous expliquer l'attachement, ou les problèmes d'attachement d'ailleurs, des petits garçons ou des hommes, je veux dire, pour expliquer la persistance du patriarcat, on a des hypothèses, on a des analyses, on connaît les mécanismes sociaux par lesquels le patriarcat nous opprime toutes et tous. On a des excellentes descriptions de tout ça et ça fait 50 ans qu'on les a. Et l'écoféminisme, c'est pareil. Donc, on a aujourd'hui quand même à disposition de nombreux outils conceptuels et théoriques. Et je prenais tout à l'heure l'exemple des violences faites aux femmes et de la possibilité de qualifier ça. Alors là, les gens disent MeToo, d'accord, mais en fait, moi j'ai un certain âge, ça fait 25 ans que je parle ce langage, et ce langage me préexistait, d'accord ? Donc en fait, ça faisait 50 ans que si on voulait, on aurait pu parler, au lieu de parler de séduction et de gaudriole, on aurait pu parler d'égalité et de consentement, mais on ne le faisait pas. Et aujourd'hui qu'il est dans l'espace public, ce que je constate, et ce qui me déprime, c'est que ce langage est à disposition pour faire langage commun, pour que tout le monde s'en saisisse, pour que ça devienne notre nouvelle façon de nous parler. Et les hommes s'en foutent.
Tous les hommes.
Alors, les représentants du patriarcat, c'est-à-dire les représentants et les personnes qui bénéficient du patriarcat, en fait, sont dans une forme d'indifférence, dans une forme d'ignorance, qui est bien évidemment en fait le signe du privilège. Hein, le privilège, comme disais, je rebondis sur ce que disait Manon tout à l'heure. Le privilège s'exprime comment ? Il s'exprime dans des formes d'ignorance, mais aussi la déresponsabilisation, le fait de ne pas se sentir responsable, d'avoir la possibilité d'être irresponsable. C'est-à-dire, quelque part, c'est irresponsable de ne pas débarrasser la table basse. C'est irresponsable. Et donc, le privilège s'exprime, et John Tronto, qui est une théoricienne du care, dit ça, déjà, son bouquin date de 1992. Elle l'exprime en ces termes-là, et je pense que c'est très juste. Donc aujourd'hui, ma question, c'est ça. Ma question, c'est en fait, alors même qu'on propose ce changement, alors même qu'on propose de se parler avec un langage qui nous convient à toutes et à tous, et qui soit un langage qui nous permette de nous parler d'égal à égal, eh bien en fait ce langage n'est pas pris n'est pas utilisée, n'est pas appropriée par toute une partie de la population. Ça peut être des femmes aussi. D'ailleurs, c'est toutes les personnes qui bénéficient qui bénéficient des dividendes du patriarcat. Donc, c'est des formes de complicité, etc. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, parce que moi, je peux parler des heures du féminisme aujourd'hui, de ses recompositions, de qu'est-ce qu'il est en train de faire, de qu'est-ce qu'il propose, de la manière dont il revisite un certain nombre de thématiques des années 70, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, et on assiste à un moment qui est historique. Je pense qu'il faut se le dire. On parlait de faire histoire dans la table ronde précédente. On est en train de faire histoire, mais va-t-on le faire jusqu'au bout? C'est-à-dire, va-t-on vraiment réussir à changer ce récit, à l'adopter? Ça dépend quand même en grande partie de ce que vont décider les personnes qui bénéficient en fait du patriarcat. Et bien sûr, il y a un investissement libidinal dans le pouvoir patriarcal. Il y a un investissement psychologique, psychanalytique, économique, social.
Sur le libido, parce que c'est vraiment intéressant. En ce moment, enfin, MeToo a déclenché, et évidemment c'est une conversation qui avait lieu depuis des années, mais MeToo a déclenché une conversation sur la sexualité hétérosexuelle, sur l'hétérosexualité, qui a complètement révolutionné la façon dont on envisage effectivement le désir, la séduction. C'est une thématique sur laquelle vous travaillez en ce moment, Manon. Il y a un livre qui va sortir très prochainement à ce sujet. Et ce que moi j'observe depuis ma position de journaliste, c'est qu'il y a énormément de livres qui vont sortir là à la rentrée, notamment l'incontournable Mona Chollet, qui s'est aussi penchée sur le dossier. Mais on peut parler de Juliette Drouard, de Victoire Toyon ou d'autres consoeurs. En fait, de repenser l'amour, de repenser la relation de couple. Est-ce que vous pensez que la société est prête pour avoir cette conversation-là, au-delà de la répartition des tâches domestiques, de l'éducation des enfants? Comment on s'aime? Comment on fait couple? Est-ce qu'on est prêt à avoir cette conversation-là?
Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je suis d'accord avec Éléonore. C'est très bien que Mona Chollet, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, écrive un livre là-dessus, et j'adore ce que fait Victoire, et j'adore ce que vous faites, mais... Ça fait 50 ans que les femmes féministes, elles écrivent là-dessus. Je veux dire, réinventer l'amour hétérosexuel, penser l'hétérosexualité obligatoire, est-ce qu'on peut aimer les hommes en étant féministe? C'est pas MeToo qui a fait advenir cette question-là.
Oui, mais c'est des questions qui ont été aussi tellement invisibilisées pendant des années, elles impactent de façon différente.
Voilà, ce qui est important pour moi, c'est de dire, parce que moi, en fait, mon travail sur le consentement sexuel, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, donc c'est bien antérieur à MeToo. Après, c'est sûr que ce que MeToo me permet, c'est que mes livres soient lus. Mais le problème, c'est que moi, je vois bien, là, je viens donc d'écrire un gros livre sur le consentement sexuel. Mon problème, c'est quel titre choisir. Là, ça fait un mois qu'on discute avec mon éditrice. Quel titre choisir pour espérer que peut-être des hommes le lisent? Parce qu'en fait, le problème, c'est que
c'est
les hommes...
C'est une super bonne question,
mais
ça.
Oui. Mais c'est que, on n'est pas soumise à la limite. Les hommes l'ont très peu lu. Moi, je reçois des emails de profs de philo qui me disent « Je voulais juste vous dire, ma femme a lu votre livre, elle a trouvé ça super. » Pour eux, c'est une évidence que mon livre ne les concerne pas. Bon, tant pis. Y a des hommes comme Robert Maggiore ici qui l'ont lu, qui sont rentrés en conversation avec le livre, mais il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit « Ah non, non, c'est un truc de nana, ça ne me concerne pas. » Et donc, moi, j'ai réfléchi, on s'est dit « On ne va pas mettre consentement dans le titre du livre, parce que si on met consentement, la plupart des hommes, les hommes, en fait, que ça n'intéresse pas, et c'est eux avec qui il faut parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les hommes que ça n'intéresse pas. C'est ça le paradoxe, parce que les hommes que ça intéresse déjà, le travail est déjà fait, les choses sont disponibles pour eux. Et donc la question, c'est comment intéresser les hommes que ça n'intéresse pas? Alors évidemment, le truc, c'est qu'il faudrait leur dire, c'est du super sexe, on va faire vraiment, ça va être super, vous allez voir, ça va... Mais de fait, je le pense. Et donc la question, c'est comment convaincre les hommes que... ils passeront des meilleurs moments s'ils s'intéressent au féminisme. Et en même temps, moi, comme féministe, ça me met en colère de me dire il faut que je convainque des gros machos que la raison pour laquelle ils devraient s'intéresser aux femmes, c'est pour augmenter leur propre plaisir. Parce qu'évidemment, ça me met dans une position paradoxale. Moi, ce que je veux aussi, c'est qu'ils s'intéressent aux femmes comme êtres humains, parce que je pense que c'est ça. Donc mon livre, finalement, va s'appeler « La conversation des sexes », parce que je pense que c'est ça. La question, c'est de dire le problème, c'est pourquoi dans les rapports hétérosexuels en particulier, on considère qu'on n'est pas tenu d'avoir des relations morales avec les gens avec qui on couche. Et que y a, surtout avec Tinder, etc., il y a cette idée de dire « Ah non, non, mais comme les hommes sont éduqués à penser que les femmes vont les piéger pour avoir une relation sentimentale, on leur dit, il faut surtout que tu sois pas sympa. » Et donc, moi, j'entends des mecs qui disent « Ah ben non, mais si tu parles avec elle et si t'es gentil, elle va croire que c'est pour plus qu'une nuit. Du coup, il faut vraiment faire aucun signe de respect. » Or, le seul moyen d'avoir un rapport sexuel épanouissant et joyeux, c'est que ce soit une conversation, qu'on s'intéresse au désir et au plaisir de l'autre, et qu'on s'intéresse au consentement des femmes, mais aussi au consentement des hommes. Parce que c'est pas vrai que les hommes, ils ont tout le temps envie, et que tout ce qui peut les intéresser, c'est vraiment du cul, etc. C'est pas vrai, c'est des êtres humains. Enfin, on a des rapports les uns avec les autres. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment faire pour ramener cette question du respect, de l'affection, de la correction les uns avec les autres. J'ai fait une intervention sur le consentement sexuel récemment et la seule question, ça a été est-ce que ça veut dire qu'on peut pas avoir de coup d'un soir moral ? Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir un
coup
d'un soir moral.
C'est possible, moi, je pense. Enfin, c'est aussi, tout à l'heure, vous posiez la question de pourquoi il y a si peu de paroles. Il y a aussi tellement de tabous qui pèsent sur le corps des femmes, sur aussi ce qui nous fait jouir, ce qui nous fait du bien. Moi, là, je viens de lire un livre, j'aurais mentionné parce que pour moi le futur féministe c'est aussi ça, ça s'appelle Fontaine avec un S, c'est une chercheuse allemande qui a enquêté sur l'éjaculation vulvaire, le nombre de tabous et d'inconnus qu'il y a autour du fait que les femmes et toute personne pourvue d'une vulve peuvent éjaculer, n'importe quelle femme, enfin j'espère qu'il y a des gens dans la salle dont le cerveau explose parce que c'est vraiment l'idée, pourquoi on ne sait pas, pourquoi on l'apprend pas, pourquoi dans les manuels scolaires on montre pas le clitoris, enfin il y a aussi toutes ces enfin il y a quand même des siècles d'invisibilisation aussi à venir pallier par des connaissances et des savoirs, quoi.
Mais en fait, bon, c'est vraiment la thématique de la dépossession. Hein. Dépossession du savoir qui est sur soi et qui est une dépossession du corps, une dépossession du savoir sur soi. Et moi, ça me fait penser justement que ça rejoint beaucoup de réflexions issues du black féminisme. Par exemple, je pense à Audre Lorde et la manière dont elle lit la question érotique et la question de la prise, de l'empowerment aussi collective. Et en fait, j'étais justement en train de lire de l'écoféminisme, donc Starhawk. Et Starhawk, elle parle aussi du pouvoir du dedans. Elle fait cette distinction entre le pouvoir sur, hein, le pouvoir qu'on peut s'octroyer sur les gens, ça c'est le pouvoir typiquement patriarcal, et le pouvoir du dedans, et le pouvoir qui peut nous venir effectivement de forme de connexion, et l'érotisme étant une forme de pouvoir, mais seulement si on se donne les moyens de la connaître. Et donc, bien évidemment, en fait, il y a un grand continuum entre ces formes de dépossession économique, sociale, au niveau des savoirs, et même de son propre plaisir. Mais encore une fois, pour rebondir sur Manon, Audre Lorde a écrit ça en 82, Starhawk publie ça en 83, donc c'est pas comme si on n'avait pas ces connexions, comme si on n'avait pas une pensée, une théorisation féministe qui n'ait pas déjà pointé ces connexions. Alors, ce qui est réjouissant, c'est qu'aujourd'hui, c'est des autrices qui sont traduites en français, qui sont lues massivement, dont on discute et qui donc permettent de faire circuler en fait ces idées et ces désirs et ses besoins. Et donc ça, c'est forcément transformateur, en tout cas pour les gens qui sont percutés par ces textes et qui peuvent l'être aujourd'hui parce qu'ils sont bien plus disponibles.
Mais c'est vrai que ça met du temps à arriver en France. Enfin, Suzanne Griffiths, qui a écrit Femme et Nature, qui est un peu un des textes fondateurs, elle a écrit en 75, si je ne me trompe pas, Sandra, vient d'être traduit en français. Là, il sort à la rentrée, ce qui est une bonne nouvelle, mais... Et d'ailleurs, je voulais revenir vers vous, Sandra, parce qu'il y a aussi dans la pensée écoféministe, dans la pensée du care, cette idée de la situation du savoir. Et peut-être que ce futur féministe peut être pensé à partir de l'idée qu'on pourrait arrêter d'hiérarchiser en fait, les vécus, les perceptions du monde et les savoirs.
Je crois que c'est vraiment le cœur de la question. Hein. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi d'épistémologie du point de vue aussi dans le champ féministe, mais aussi bien sûr avec les questions d'intersectionnalité. Et c'est vraiment l'idée qu'il faut en fait vraiment rompre avec des hiérarchies épistémologiques et considérer que, en effet, tout le monde a son mot à dire dans la constitution du savoir. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important dans les débats actuels aussi, hein, puisque les résistances, les attaques, etc., qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de refuser que le point de vue des femmes, le point de vue des personnes racisées ou même des pauvres, hein, en réalité, soit pris en compte dans la vision du monde, de la société ou de la philosophie. Et donc l'irruption de ces personnes, c'est ça qui change réellement nos conceptions du monde et la connaissance en tant que telle. Et le fait aussi que, par exemple, si on revient, puisque c'est quand même notre thème aujourd'hui aussi, à la période qui s'est passée avec la... Si il y avait eu peut-être plus de contributions des femmes, mais bon, également des femmes racisées, des personnels du bas de l'échelle, en fait, de care et de soins, dans les décisions publiques, par exemple, dans les décisions politiques, je pense qu'on aurait eu de bien meilleures décisions politiques. Donc, en réalité, c'est vraiment les compétences des citoyens en général, des femmes donc en particulier, qui doivent être prises en compte, et non pas parce que c'est sympa, mais parce que ça donne de la meilleure science. Je prends vraiment le point de vue, un point de vue épistémologique, et je crois que c'est important parce que, de fait, on va souvent dire en ce moment que les savoirs féministes, les savoirs intersectionnels sont des savoirs militants pour dire que c'est vraiment du coup biaisé, pas intéressant, etc. Alors que, en réalité, non seulement, on l'a rappelé tout à l'heure, donc les luttes ont produit bien sûr de la connaissance et ont joué un rôle, mais surtout elles permettent aussi de voir des choses qu'on ne voit pas sans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas seulement qu'il y a une compatibilité entre l'engagement et la connaissance, mais que finalement des formes d'engagement sont indispensables à vraiment connaître les choses, que ce soit au plan scientifique, au plan sociologique bien sûr, au plan philosophique. Et je crois qu'il faut vraiment arriver à intégrer cela et à se battre pour cela collectivement, hein, dans notre communauté de philosophes notamment, que c'est cela vraiment la vraie menace et pourquoi on est attaqué. C'est parce que effectivement il y a une demande de contribution plus large à l'élaboration de nos savoirs.
Ce qui est intéressant, ce qui ressort de cette table ronde, c'est une espèce de paradoxe qui pourrait sembler être un paradoxe, même si moi je vois très bien comment le résoudre, où il y a d'un côté la nécessité de faire émerger des paroles de femmes, des paroles de personnes racisées qui ont été effectivement silenciées au fil des siècles, mais aussi l'appel à ce que les hommes prennent part à la conversation et ne se sentent pas non plus exclus de ce discours. Et c'est peut-être là en fait que se situe la difficulté à construire ce futur, c'est-à-dire faire comprendre la possibilité de faire cohabiter en fait ces deux mouvements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Manon.
Oui, moi c'est quelque chose sur lequel je réfléchis tout le temps là en ce moment. C'est pour ça que je faisais référence au fait que j'avais travaillé sur la façon dont Beauvoir permet de penser la masculinité et ce qui est un problème pour les hommes dans la masculinité, parce qu'en fait on le voit bien dans les débats, ça a un côté un peu énervant parfois quand on fait des débats féministes et que les hommes disent mais moi je suis aussi soumis à ma femme et moi mais en fait c'est une réalité que les injonctions de la masculinité sont difficiles pour les hommes, les obligent à énormément de choses. Que Beauvoir, elle écrive déjà en 1949 que la sexualité des hommes est rendue triste par la domination masculine, qu'il y a quelque chose de profondément déprimant en fait pour les hommes dans la sexualité, parce que, à cause de la domination masculine, du coup, là, il y a une chercheuse à Édimbourg que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippa Melo-Lopez, qui travaille pour dire, en fait, on comprend les incels, donc les involuntary celibates, à partir du modèle de la masculinité défini par Beauvoir.
Peut-être rappeler qui sont les incels, voilà, c'est un mouvement masculiniste qui considère qu'en fait, être célibataire, c'est la faute des femmes et qui peuvent aller jusqu'à harceler, voire tuer des femmes.
Voilà, et les hommes qui ont accès aux femmes. Donc tout ça, c'est la question dont je parle dans mon livre à venir, de ce que les Américaines ont appelé l'entitlement des hommes, donc le fait que les hommes pensent avoir droit à l'attention des femmes, au sourire des femmes et au sexe, au service sexuel que leur donnent les femmes. Mais voilà, je pense que c'est important de dire, en fait, on a tous à gagner au féminisme et en même temps, de garder à l'idée qu'il y a des injustices spécifiques faites aux femmes. Pour donner un exemple très simple de cette injustice spécifique que je trouve très parlante, c'est des philosophes féministes américaines qui ont parlé du fait que le viol, c'est une injustice faite à toutes les femmes, parce que toutes les femmes, même qui ne sont pas victimes de viol, sont des pré-victimes. Et qu'en fait, l'expérience vécue des femmes, c'est de savoir, depuis qu'on est toute petite, qu'on risque d'être violée. Et il y a cette philosophe qui s'appelle Susan Bryson, que j'aime énormément, qui a écrit un livre sur son viol, où elle explique que... Elle s'est fait violer en France, en plus. Un viol très violent par un inconnu sur un chemin qui l'a laissée pour morte, etc. Un truc très violent. Mais elle dit, au moment où ça a commencé, elle s'est dit « Ah, c'est donc ça. C'est donc ça dont on me parle depuis que je suis née. » Et ça, je pense que c'est une injustice spécifique faite à toutes les femmes, que nous sommes toutes des pré-victimes de viol, que nous devons penser notre présence dans l'espace public, dans la famille, dans tout, en fonction du fait que le viol est une menace. Et ça, c'est une injustice énorme. Ça empêche de penser plein de choses, ça empêche plein d'initiatives, etc. Donc il faut tenir ensemble le fait que le féminisme est bon pour tout le monde, mais qu'il permet aussi de montrer des injustices spécifiques aux femmes en tant que groupe.
Ouais. Faut pas lâcher là-dessus. Et d'ailleurs, en vous écoutant, je me suis dit, effectivement, ça fait 50, 60 ans que les féministes parlent du viol et du consentement. Néanmoins, il me semble que MeToo a permis de faire émerger quelque chose de l'ordre de l'intime, qui a été rendu possible par les réseaux sociaux, par Internet. Je pense que là, on est aussi de plein pied dans cette idée des futurs féministes. Et MeToo a permis aussi de rappeler que, contrairement à l'expérience de cette philosophe dont vous parlez, le viol, la plupart du temps, se produit dans les familles, dans les lieux de travail. Dans 80% des cas, les femmes violées connaissent leur agresseur. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi une prise de conscience qui est très récente dans la société, tout comme ce qui est en train d'émerger sur l'inceste. Enfin, je pense qu'il faut aussi parler du travail de Dorothée Dossuy, qui est vraiment fondamental. Enfin, moi, j'ai lu son livre tout récemment. C'est l'anthropologie de l'inceste, quelque chose sur lequel repose notre société entière et qui n'était pas... qui a été tabou à juste titre parce que personne ne voulait s'y pencher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore énormément en fait de champs à défricher pour nous débarrasser aussi de tous ces impensés?
Mais c'est vrai que bon, le problème dont on discute là, hein, c'est non seulement comment enrôler en fait une partie de la population, une partie des personnes concernées dans un projet de transformation. Et donc on a dit, alors oui, alors souvent, mais c'est aussi le cas sur les études sur la masculinité ou quoi, c'est vous allez gagner à être libéré par le féminisme. Les hommes, vous allez gagner, vous aurez du meilleur sexe, vous aurez une plus grande espérance de vie, vous aurez des relations conjugales plus satisfaisantes, vous aurez un salaire plus élevé, etc. Enfin bon, voilà, il y a tout un ensemble de statistiques pour vous dire c'est très motivant. Voilà. Et donc que ça nous dit en fait qu'on ait besoin de t'en passer par là pour les convaincre, et ce qui en plus ne marche pas malgré tout, c'est que en fait le désir d'égalité n'est pas assez important. En fait, il n'y a pas d'investissement de notre imagination politique ou libidinale ou quoi sur l'égalité comme quelque chose de désirable. Et je pense que du coup, ça renvoie à une réflexion aussi plus large, au-delà de la question de savoir comment enrôler les hommes dans une transformation en profondeur. C'est que, en fait, le patriarcat, ça ne concerne pas que les relations hétérosexuelles ou les relations entre les hommes et les femmes. En fait, c'est le modèle de structuration du pouvoir. Que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique ou le pouvoir social dans notre société. Et donc ça nous renvoie aux limites aussi de notre conception de la démocratie. Enfin, je veux dire, si on veut réfléchir sérieusement à la manière dont on veut déboulonner le patriarcat, en fait, on peut pas faire l'économie de penser, mais en fait, dans quelle mesure ça doit remettre en cause la conception qu'on a de l'autorité politique, de la représentation politique, par exemple, mais aussi de la manière dont fonctionne l'entreprise. En fait, on va pas pouvoir, je veux dire, concrètement, hein, on peut pas motiver les hommes à débarrasser la table basse si au boulot on reste sur des formats de management et d'autorité patriarcale, hiérarchique, verticale. C'est pas vrai en fait, et d'ailleurs on le voit très bien parce qu'en fait ces pauvres hommes, on leur dit vous avez un congé paternité et puis ils le prennent pas, mais pourquoi? Parce qu'au boulot ils vont se faire mal voir. Donc en fait si on démantèle pas cette structure là aussi, on n'arrive à rien. Et bien évidemment elle est extrêmement ajustée, en tout cas complètement imbriquée aussi avec les structures racistes. Oui, le programme est le programme est vaste, mais voilà, prenons un petit peu, soyons réflexifs sur, parce que surtout en France, hein, l'égalité, on se gausse, enfin vraiment, enfin non, on se gausse pas, mais on se remplit de l'égalité, on se gave de l'égalité comme étant vraiment notre vertu.
C'est écrit au fronton de tous les bâtiments publics.
Notre vertu démocratique, soi-disant notre principe à partir duquel on fait énormément de demandes de justice sociale, mais désirons-nous vraiment en fait l'égalité? Comment la désirons-nous et quelle égalité désirons-nous? Ben en fait, quand on y regarde de plus près, ma foi, c'est l'égalité très abstraite. Elle n'est pas du tout incarnée. Et de ce point de vue-là, je trouve que justement, enfin, une des choses qu'on défend dans le petit livre avec Sarah Mazouz, c'est justement cette idée que il faut qu'on commence à penser les questions d'égalité, non pas à partir d'une position d'abstraction, comme on le fait beaucoup dans notre théorie politique, mais à partir d'un universel incarné. Et ça rejoint complètement, de toute façon, les optiques de philosophie du Caire, hein, vraiment à partir de l'expérience. Et de ce point de vue-là, juste pour faire un mini retour sur la question de l'épistémologie du point de vue, parce qu'on fait beaucoup de caricatures et on en parle aussi dans le livre avec Sarah, on réduit cette notion d'épistémologie du point de vue à l'idée que, soi-disant, alors seules les femmes peuvent parler des femmes, seules les noires peuvent parler des noires, seules les femmes noires peuvent parler des femmes noires. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt le projet de dire on ne peut pas construire de la bonne science et on ne peut pas construire de la bonne philosophie sans le point de vue de ces personnes, en fait, sans prendre en compte leur expérience sociale. Et leur expérience phénoménologique, voilà, leur expérience au sens le plus plein du terme. Et de ce point de vue-là, l'épistémologie du point de vue, c'est une perspective collective de la production de connaissances. C'est-à-dire, on doit multiplier les points de vue si on veut arriver à une science qui dit du vrai, et surtout qui dit quelque chose d'utile pour la société. Et je pense que peut-être on peut s'inspirer de ça pour repenser nos formes de pouvoir, justement, pour repenser la manière dont on structure nos hiérarchies, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans nos institutions politiques. Et de ce point de vue-là, on vit en ce moment, en tout cas en France, un moment à l'inverse de ça, de verticalisation, d'hiérarchisation du pouvoir, de délégitimation de l'expertise des gens qui sont sur le terrain, d'absence de retour sur l'expérience, etc., ancrée sur une parole de toute puissance complètement déconnectée du réel. Et donc on est vraiment dans un grand écart qui crée aussi un appel d'air, hein, pour toutes les formes de réinvestissement libidinal dans ces hiérarchies, en fait. Donc ça n'a rien d'étonnant, en fait, le moment politique qu'on vit et les attaques sur les études de genre et le réinvestissement dans des postures de défense, en fait, de la blanchité, du machisme, de la misogynie, contre les réfugiés. Enfin voilà, là on a tout ça se tient de ce point de vue-là.
Je voudrais faire une référence à une chercheuse dont vous parlez dans cet ouvrage qui s'appelle Sandra Harding. J'appelle vraiment tout le monde à aller lire ce texte qui est assez court. Qu'est-ce qu'une la forte objectivité, et qui questionne en fait l'idée d'une objectivité neutre, quoi. Et elle est dans l'anthologie aussi de Manon. Il est incontournable, ce texte. Le jour où je l'ai lu, j'ai tout compris, je crois. Alors, je voudrais faire un dernier tour de table pour parler un peu concrètement de politique. J'avais deux thématiques, mais on va pas avoir le temps de les couvrir toutes les deux, donc je vais un peu les mélanger. Il y a à la fois, en ce moment, quelque chose que je trouve très inquiétant, c'est la réappropriation de la pensée féministe par une extrême droite identitaire. J'ai pas envie de citer ce groupuscule féministe d'extrême droite qui est en train de monter, qui a en plus des moyens, qui a de l'argent, qui met des affiches dans tout Paris, qui envoie ses porte-paroles sur les plateaux de télé, et qui, au nom du féminisme et des droits des femmes, appelle au rejet de l'étranger, à l'interdiction de l'immigration, et évidemment fait reposer avant tout l'oppression des femmes sur les épaules des musulmans. Il y a ça qui fait peur. Il y a aussi autre chose qui fait du bien. C'est un programme qui s'appelle Investi ES, qui a été créé par Kitrit Villepin et qui vise un peu sur le modèle américain qui a permis l'émergence d'AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, de former des femmes aux profils et aux origines extrêmement diversifiées afin qu'elles se présentent aux élections législatives en 2022. Donc voilà, pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée. Sur le plan vraiment purement politique, comment vous envisagez les choses à l'avenir? Est-ce que c'est la menace d'un féminisme identitaire ou l'émergence d'une nouvelle génération de femmes à l'Assemblée, optimisme ou pessimisme, de quel côté on balance?
Très rapidement, moi je pense en effet que une partie de la solution, c'est des initiatives comme Investi. Je ne savais pas que ça avait lieu, mais je pense qu'en effet c'est ça qui fait apparaître des nouveaux profils et qui donne du courage à des gens qui n'y auraient pas forcément pensé ou qui auraient pensé que ce n'est pas pour eux, etc. Après, moi, je suis pessimiste et optimiste. Je pense qu'il y a des choses très inquiétantes sur la montée de l'extrême droite en France qui font vraiment froid dans le dos. Je suis très, très pessimiste là-dessus. Mais je suis quand même très optimiste sur le discours féministe et quand même sur le discours intersectionnel parce que je pense que ça n'intéressait personne et que ça intéresse de plus en plus de monde et que on ne pourra pas revenir en arrière. Il n'y a pas moyen, en fait. J'avais vu comme ça un film où il y avait un homme qui disait « Mais nous, on est français, en fait, et on ne va pas repartir puisqu'on est chez nous, on est la quatrième génération, etc. Et donc, il va falloir faire société avec nous. » Et c'est ça, et donc, on ne pourra pas revenir en arrière sur cette question-là. Et donc, ça, c'est une forme d'optimisme parce que, voilà, si on entrevoit la libération et l'émancipation, eh ben, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est quand même joyeux.
Sandra ?
Oui, je reviens sur cette question que vous avez posée sur cette espèce de nouvelle forme de faux féminisme qui va attaquer en fait, les communautés musulmanes. Je crois que c'est quelque chose qu'on a eu vraiment depuis les années 90, en réalité. Hein. Moi, j'ai vu ça. C'est un thème très classique. De dire que effectivement, c'est des personnes qui respectent pas les droits et donc d'attaquer sous cet angle féministe, mais qui n'est pas du tout féministe puisque ces attaques viennent de personnes qui elles-mêmes n'ont rien de féministe. Hein, donc c'est toujours une sorte de féministe, féminisme adapté à la situation. Cela dit, c'est vrai que je voulais aborder un point puisqu'on parle beaucoup des hommes, mais c'est vrai que on a énormément de femmes, malgré tout, qui vont en effet se ranger du côté des pires hommes machos dans ces combats-là. On a ça en ce moment, je pense que c'est quand même le plus décevant. Du côté du Caire en particulier, on sait très bien que aussi la réussite de beaucoup de femmes, y compris des femmes qui disent qu'elles ne veulent pas être féministes et qu'elles ont, voilà, et qu'il ne faut surtout pas favoriser les femmes, leur réussite est vraiment basée sur l'exploitation de femmes à leur service. Et donc il y a un déni de cela qui est vraiment pour moi lié à cette forme de complicité. Alors je ne veux pas prendre trop de temps, mais bon, vous savez qu'un de mes autres dadas, c'est les séries télévisées. Et si on voit une série comme The Handmaid's Tale, hein, La Servante Écarlate, c'est vraiment extrêmement pédagogique là-dessus, quand on voit que le patriarcat, cette structure-là, et pourquoi c'est très difficile de s'en débarrasser, parce qu'effectivement, c'est une structure où il y a des femmes qui, effectivement, vont vraiment consolider cette structure patriarcale. Et je crois qu'on voit bien qu'il ne suffit pas, en fait, qu'il y ait beaucoup de femmes dans les structures de pouvoir. Bien sûr, c'est important de faire élire des femmes. Mais bon, il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont été élues à la dernière Assemblée. Et elles ont voté les pires mesures, ne serait-ce les débats complètement concernants, je ne vais pas en reparler, mais sur les handicapés.
L'allocation pour le conjoint handicapé, voilà. Effectivement, ça a été, c'était hier soir, voilà. Un article dans Le Monde ce matin, Lunard.
Et c'est concernant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il faut plus de femmes, c'est qu'il faut plus de femmes féministes au pouvoir.
Excellente conclusion, merci Sandra.
Oui, on en arrive souvent à cette conclusion qu'il faut plus de femmes féministes, plus de féministes tout court, quel que soit leur sexe. Oui, bon, je rejoins sur l'histoire des femmes politiques. Je rejoins, moi j'avais travaillé pour ma thèse sur la parité en politique, donc avec la grande question de les femmes changeront-elles tout, parce que c'était quand même l'argument de vente, hein. Je veux dire, l'argument pour faire passer cette réponse, cette réforme, c'était quand même que soi-disant les femmes seraient meilleures en politique. Je pense qu'on a vu que la situation ne s'est pas améliorée. Donc effectivement, tant qu'on n'a pas changé les structures du pouvoir, et en particulier les institutions de la 5e République, qui sont quand même problématiques à maints égards, il ne faut pas non plus espérer que ces femmes vont rester. C'est probable qu'elles vont faire un mandat, qu'elles vont repartir, etc. Et qu'en tout cas, elles auront pas de... Enfin, le Parlement n'a malheureusement pas beaucoup de pouvoir à l'heure actuelle. Maintenant, sur ce qu'on appelle donc le fémonationalisme, ou en tout cas cette manière d'utiliser le discours de l'égalité des sexes, en fait, pour stigmatiser des populations immigrées comme étant archaïques, alors loin dans le temps ou dans l'espace, nous, on aurait adhéré à l'égalité. Et aussi, d'ailleurs, on serait gay-friendly, mais les musulmans en particulier seraient donc, eux, pas assez éclairés. Ils n'auraient pas suivi le cours de la marche de l'histoire que nous avons embrassée, bon, seulement en fait il y a 5 ans, mais voilà, de toute éternité, nous sommes en faveur de l'égalité des sexes, c'est bien connu. Donc 1945 en France, le droit de vote, hein. C'est quand même pas très loin. Donc ce fémonationalisme, comme le disait, je rejoins Sandra, c'est pas nouveau en fait. Hein. Et je pense que 2004, pour moi, la loi d'interdiction du port du voile à l'école, cette réinvention distorsion de la laïcité. Je pense que c'est là où en fait et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec Sandra, parce que en fait, bien sûr, c'est un discours de droite, c'est un discours d'extrême droite, mais en fait, c'est aussi relayé par des féministes. Et c'est à ce moment-là, en 2004, je pense que en France, en tout cas, les féministes ont fait alors. Comment le qualifier ? Est-ce que c'est une erreur politique ? Est-ce que c'est une erreur de bonne foi ? Ou est-ce que c'est un aveuglement lié à leur position de privilège racial ? Et bon, moi, dans un livre que j'ai publié l'année dernière en anglais qui s'appelle Feminist Trouble, je prends le concept de blanchité féministe pour en fait essayer de qualifier cette posture féministe qui s'approprie le féminisme, qui dit « nous savons quelle est la bonne émancipation pour les femmes ». Y compris pour les femmes musulmanes, nous considérons que le port du voile ne fait pas partie des signes corrects, des signes acceptables. C'est finalement pas le féminisme respectable, ni d'ailleurs la féminité respectable que nous voulons. Et donc nous considérons que nous sommes du côté de l'État quand il fait cette interdiction. Et là, pour moi, il y a un point de bascule. Il y a un manque d'analyse féministe, il y a un manque de théorisation, et il y a bien évidemment un aveuglement à la position de privilège racial des féministes qui énoncent ce discours. Mais voilà, on est en 2021, maintenant on a des concepts comme l'intersectionnalité, bon, qui existait déjà en 2004, hein, on est d'accord, mais voilà. On a des concepts et on a surtout des féministes racisées qui prennent la parole. Et de ce point de vue-là, les médias sociaux sont hyper importants, parce qu'il n'y a pas que dans l'espace public en général qu'il y a des phénomènes d'exclusion et que les femmes ou les personnes racisées ne peuvent pas dire leur point de vue, dans le mouvement féministe aussi. Et donc, ce qu'ont permis un certain nombre de plateformes comme ça de médias sociaux, c'est aussi la possibilité pour les féministes racisées d'avoir de la voix, d'avoir leur voix amplifiée et de pouvoir contrer le fémonationalisme. Et c'est sûr que donc de ce point de vue-là, il y a du travail. Donc il y a du travail pour démanteler le patriarcat, mais il y a aussi du travail pour démanteler le racisme au sein du mouvement féministe. Et il est en train de se faire, mais il n'est clairement pas abouti.
Et puis surtout que quand il y a des événements qui sont organisés par les afroféministes, par exemple, on voit que l'État se situe généralement du côté universaliste de la force et va...
Et que des partis et que des personnes de gauche qui espèrent être candidates à la présidentielle retirent des salles, ou même encore Éric Piolle à Grenoble, quand Rokhaya Diallo vient, il dit non, mais en fait, la mairie ne soutient pas. Mais en fait, Rokhaya Diallo, c'est une penseuse absolument cruciale, très féministe. Donc quoi, les écologistes ne soutiennent pas le féminisme, en fait.
C'est important aussi de préciser que dans chacun de ces mécanismes, entre-temps, il y a l'extrême droite qui intervient sur les réseaux sociaux et qui fait pression sur la mairie de Paris, sur la mairie de Grenoble, et qui finalement cède. C'est ce qui arrive aussi.
Oui, mais enfin, ces institutions ont le pouvoir de résister à cette pression. Voilà, elles ont la responsabilité, on en revient. Hein. Ce qu'a fait Éric Piolle ou ce que fait Hidalgo, c'est un abandon moral et politique. Et c'est de l'irresponsabilité, c'est-à-dire elle est en position de pouvoir ou il est en position de pouvoir, ils choisissent de ne pas soutenir quelque chose qui pourtant moralement et politiquement voilà, se situe du côté du débat démocratique, de l'inclusion, de la réflexion sur l'antiracisme, sur le féminisme, qui sont a priori des valeurs que ces partis-là défendent. Donc là, on a typiquement cet exemple d'irresponsabilité qui est le propre des personnes en position de pouvoir.
Merci pour ce point, Éléonore. On arrive au bout de la rencontre. Il y avait un livre que je voulais absolument mentionner. Ça s'appelle « La joie militante » de Carla Bergman et Nick Montgomery. Il est vraiment bien celui-là et justement, il parle aussi beaucoup de ces divisions qui existent au sein des milieux militants et de cette pureté militante qui est à la fois nécessaire et dangereuse. Et voilà, il y a cette phrase que je trouvais bien collée à l'esprit de la rencontre. « L'optimisme et le pessimisme offrent un sentiment de confort en échange de l'ouverture d'esprit et de la capacité à demeurer dans la complexité. Ils peuvent assécher notre capacité à nous sentir concernés, à essayer et à lutter pour que les choses soient autrement, sans savoir ce qu'il adviendra. » Je trouvais ça beau pour penser les futures féministes. Je vais clôturer la rencontre en vous posant la question rituelle de la poudre. Manon Garcia, ça évoque quoi pour vous, la poudre ?
Alors moi, je suis une vraie femme, ça m'évoque la poudre, le maquillage, ça m'évoque le poudrier. Non, mais je dis ça justement avec ironie, c'est qu'à chaque fois que je vous entends poser cette question, je suis consternée par le fait que je devrais penser les bombes ou je ne sais pas quoi, et qu'en fait, je pense au poudrier de ma grand-mère qui me faisait, quand ma grand-mère est morte, quand j'avais 6 ans, l'odeur de son poudrier, pour moi, c'était elle. Et donc, c'est à ça que me fait penser la poudre.
C'est OK. Est-ce que ça vous inspire, Éléonore ?
faire parler la poudre, oui, non, ça m'évoque l'explosion, mais la poudre, ça m'évoque aussi la poudreuse, ça m'évoque la neige et ça m'évoque les traces dans la poudre où personne n'a osé aller et où pourtant, finalement, quelqu'un s'est aventuré. Et voilà, et la pensée, c'est ça aussi. Et donc, voilà, ouais, c'est pas mal.
Je suis fan de cette réponse, bravo Éléonore, elle n'a jamais été faite en 5 ans.
Ça m'est venu comme ça, mais j'habite Genève, je ne suis pas loin des montagnes, donc il faut comprendre que je suis un peu aidée par le contexte géographique dans lequel j'habite.
Sandra, vous l'avez déjà eu, mais à
nouveau. Je l'ai eu, mais je persiste. Pour moi, c'est vrai que bien sûr, il y a l'idée du poudrier, du maquillage, une image féminine, mais pour moi, c'est vraiment l'idée, en effet, de l'explosion. Et pour moi, vraiment, le féminisme en philosophie, bah oui, blâme, c'est une explosion. Il y a vraiment, c'est vraiment un très grand changement. Mais quand on parle du poudrier, bien sûr, il y a cette image de maquillage, mais il y a aussi la poudre, quelque chose qui se répand de façon invisible. Et c'est ça, en fait, le féminisme, c'est à la fois l'explosion et puis à la fois quelque chose qui peut aller partout de façon discrète et invisible, et on espère ça aussi.
Merci infiniment à toutes les trois. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Sandra Logier, Manon Garcia et Éléonore Lépinard d'être venues faire parler la poudre avec moi. Merci à Charlotte Casiraghi et à toute l'équipe de Philo Monaco pour cette belle invitation. Merci à Sébastien Harry et à Gary Gillet pour la régie et la prise de son. Et merci à vous de rester toujours fidèles à la poudre.
La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.